La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'enfance et la jeunesse traumatique de Barbara, alias Monique Cerf, aurait sans doute pu détruire l'adulte qu'elle est devenue par la suite. Née en 1930 dans une famille juive qui fuit l'antisémitisme de ville en ville durant toute la décennie, elle doit également vivre dans une relative pauvreté alors que son père accumule des dettes de jeu. Son père qui l'a violée a entretenu avec elle une relation incestueuse jusqu'à ce qu'elle le dénonce à la gendarmerie. Autant dire que Barbara est une rescapée, comme nous l'avons vu hier au cours de notre émission biographique en compagnie de Jean-François Kervéhan. Elle voulait être pianiste virtuose, mais une opération à la main a brisé cet espoir de carrière. Elle a en revanche appris à chanter et s'est produite 10 années durant au petit cabaret L'Écluse avant de devenir la star que l'on connaît. Nous parlerons justement de Barbara, diva de la scène, ce sera demain, avec sa biographe Valérie Lehoux. Et puis des feux de la rampe, il sera également question, mais d'une autre manière jeudi. Nous serons en compagnie de l'universitaire Bruno Plankmann qui nous parlera des concerts auxquels il a assisté dans des lieux parfois improbables, ainsi qu'avec le dramaturge Pierre Note qui viendra en deuxième partie nous parler de son livre « J'ai tué Barbara » publié aux éditions Philippe Ray. Et aujourd'hui ?
Bon, cette chanson-là, Will, c'est « Si tu veux, je voudrais moi ». C'est une chanson qui s'appellera « Chanson pour une absente » ou « Le 6 novembre », enfin ça je sais pas encore. Je voulais faire une chose qui est absolument sans texte. Enfin, il y a un texte, mais j'arrive pas à écrire. Bon. Et que je voudrais, bon, disons que c'est Paris, c'est un matin de novembre, c'est un matin qui n'est pas encore froid, novembre, c'est encore ensoleillé, mais c'est quand même frileux. Et c'est un matin de novembre avec un temps de mars, en fait. Tu vois, j'ai beau de mars où il pleut. Il y a un petit soleil comme ça, une petite pluie. Et c'est dans Paris, c'est une marche très lente, une traversée de Paris, c'est noir. Hein. C'est comme une grappe comme ça, qui, tu vois. Lourde de gens ou pas de gens, en fait, tu vois, bon, et ça s'écoule comme ça très lentement. Enfin, c'est sombre hein, quand même, ça, tu vois. Et je voyais une chose qui ferait comme ça.
Aujourd'hui, pour parler des textes de Barbara, nous sommes en compagnie de Joël Julie, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de la chanson. Il a écrit en 2004 une étude intitulée « Les mots de Barbara », publiée aux presses universitaires de Provence après avoir soutenu sa thèse sur le style et les chansons de Barbara. Et puis il a également édité l'anthologie de ses chansons aux éditions de l'Archipel sous le titre « À cœur qui bat, à cœur battant » avec une préface d'Alexandre Tarot, pianiste et interprète des musiques de Barbara.
Comment vous définissez-vous ? Qui êtes-vous ?
Effectivement, c'est pas ça, c'est que je vous réponds, je suis une femme et je suis une femme qui chante. Ça ne va pas vous suffire.
Est-ce que c'est compatible ?
La preuve. Est-ce que vous trouvez que je ne ressemble pas à une femme ?
Sûrement si. Mais je crois que comme définition, c'est un peu succinct, je trouve.
Demandez-moi des choses plus précises. Qui êtes-vous ? Je suis une femme qui chante avant tout et je répondrai à tout ce que vous me demanderez.
Bonjour Joël Julie.
Bonjour.
J'ai envie de vous demander qui êtes-vous, Joël Julie ? Ce serait un peu facile peut-être.
Un homme qui parle.
Exactement. En tous les cas, Barbara, elle, c'est une femme qui chante, comme elle le disait à Roger Louis dans cet archive de 1966. C'est pas pareil qu'une chanteuse, une femme qui chante, mais c'est quoi la différence exactement ?
Je pense que Barbara a eu conscience assez tôt de cette féminité étrange dans la chanson française et d'être l'une des premières à oser écrire des chansons qu'elle va interpréter elle-même. Et ça constitue sa marque de fabrique. Alors, dans l'expression « femme qui chante », elle va l'utiliser finalement très très tôt, elle deviendra célèbre un petit peu plus tard. Hein. On a en tête des expressions comme « chanteuse de minuit », par exemple, qui lui seront collées à propos du cabaret L'Écluse quand elle interviendra à minuit quai des Grands Augustins. Mais l'expression « femme qui chante », en fait, elle va la revendiquer dans les articles de presse dès le tout début des années 60, donc 63-64, le moment du démarrage de sa carrière. Et il me semble bien que, comme vous dites, hein, c'est pas une chanteuse, c'est pas une femme qui écrit, c'est une femme qui chante. Elle tient à la double identité, celle de sa féminité, parce qu'il n'y a pas de revendication féministe, par exemple, chez Barbara, et de la chanson par rapport à, évidemment, à la poétesse, parce que le journaliste, visiblement, voulait lui faire dire qu'elle était poète, et elle ne souhaitait pas le dire, en tous les cas, dans les années 60.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est une femme qui écrit? Parce que vous avez publié un livre qui s'appelle Les mots de Barbara.
Alors, ce qui m'est apparu immédiatement, c'était que, contrairement, par exemple, à d'autres paroliers chanteurs, donc des années 50-60, c'est que Barbara, qui eux aussi avaient revendiqué le fait d'être chanteur et de ne pas être poète, Brassens et Brel se défendent finalement d'être poète, mais ils s'en défendent relativement mollement, alors que Barbara va garder cette ligne de conduite jusqu'à la fin de sa carrière et jusqu'à son décès. Donc il y a une revendication de la chanteuse populaire qui est beaucoup plus importante chez Barbara que chez des hommes qui ont écrit des paroles de chansons et les ont interprétées.
Alors hier, on entendait en archive Barbara dire « Moi, je ne suis pas une autrice-compositrice, je n'aime pas ce terme-là. Pourquoi, au fond, ce serait mal d'être une autrice-compositrice » Elle disait même à l'époque un auteur-compositeur.
Oui, c'est ça, auteur-compositeur, hein. Oui. Autrice-compositrice, ça devait pas encore tout à fait exister ni être à la mode. Elle refusait d'être auteur-compositeur parce que je pense qu'elle se sentait pas. Elle revendiquait le fait d'avoir eu. Enfin, ce qui était prééminent chez elle, c'était la chanson. Les textes n'étaient pas faits pour être écrits. D'ailleurs, elle n'a pas écrit un Benoît Misère comme Léo Ferré ou comme d'autres chanteurs actuellement qui cessaient à l'écriture. Il y a même un courant actuellement des chanteurs qui cessaient à l'écriture.
Elle a écrit quand même une autobiographie, même inachevée, elle a commencé.
Inachevée, oui, tardive, et puis vraiment c'était sur l'insistance, et puis parce que justement il y avait peut-être quelque chose à régler avec l'image qu'elle avait donnée d'elle dans ses chansons. Il fallait créer un espace autobiographique autour de ses chansons, et il lui semblait qu'une partie de son existence était tronquée si on ne s'était fié évidemment qu'aux chansons, et on pense à Nantes évidemment. Donc, prééminence en fait de la chanteuse qui a un besoin de marquer sa féminité en écrivant elle-même des textes plutôt que d'interpréter des paroles d'hommes, et c'est pour cela que même sous des pseudonymes, dès 1958, elle va commencer à écrire des chansons.
Alors, qu'est-ce qui se passe justement en 58? Parce que avant, elle reprend des textes des autres. Et d'ailleurs, elle ne semble pas s'en porter mal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'elle devienne, malgré tout, l'autrice de ses propres paroles?
Je vais faire des hypothèses, hein, simplement. Je pense que c'est la maturité, puisque elle a à ce moment-là 28 ans, elle va approcher donc de la trentaine. Elle a déjà vécu une relation conjugale, pas mal de relations sentimentales, et je pense que ce qui lui est offert à ce moment-là, c'est-à-dire donc des chansons réalistes des années 30-40 et quelques reprises des chanteurs des années 50, elle reprend par exemple, elle va reprendre en 61-62 les chansons de Brassens et Brel, faire des albums d'ailleurs qui vont remporter le prix de l'Académie Charles Cros, mais ça ne lui suffit pas visiblement en tous les cas.
Parce qu'elle ne peut pas parler suffisamment d'elle, tout simplement.
Ouais. Il y a un besoin de lyrisme, et c'est peut-être ça qui nous l'a fait apprécier autant à l'heure actuelle.
Alors plus tard, elle continuera de travailler avec des paroliers, par exemple Jean-Louis Aubert, François Wertheimer, Jean-Loup Dabadie et même Jacques Attali.
Et même Jacques Attali. Jacques Attali lui propose, elle est effectivement en 81, donc elle va soutenir François Mitterrand, sans faire du militantisme, mais enfin elle va le soutenir ardemment. Et je pense que c'est à cette occasion-là qu'elle rencontre Jacques Attali, et Jacques Attali lui propose un texte qu'elle accepte de mettre en musique et de chanter.
C'est lequel?
Colline.
Ouais. Alors elle n'écrit quand même pas beaucoup finalement, quand on prend l'ensemble de sa carrière, par exemple, entre 1973 et 1980, il n'y a que 8 chansons.
Ouais.
Pendant les 10 dernières années, il n'y a qu'une dizaine de chansons aussi.
Une quinzaine, oui, en fait, écrites. Ça veut dire qu'il y a à peu près une trentaine de chansons. Alors déjà, l'ensemble de la carrière, hein, 108 chansons écrites, composées et interprétées par elle, c'est finalement pas énorme par rapport aux carrières de Brassens, de Ferré, et puis on cite eux, mais par rapport actuellement, on va dire à des chanteurs comme Souchon ou Cabrel, qui ont déjà une dizaine d'albums et donc énormément de titres à leur disposition. Donc elle, finalement, il y a un déficit en matière de chansons.
Qu'on peut expliquer d'une manière ou d'une
autre. Oui, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une femme qui chante, c'est pas une femme qui écrit.
Et c'est une femme de la scène. Alors.
Et voilà, elle se défausse finalement dès qu'elle peut se défausser, qu'elle a assez de renommée ou qu'elle a senti qu'elle a fait le tour autour de 1968-1972, ben elle va avoir recours à des paroliers parce qu'il n'y a plus de nécessité, je pense.
Et en même temps, elle ne chante jamais aussi bien que quand elle chante ses propres mots et qu'elle les vit.
Ouais, c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière en montrant que finalement, au cours des récitals qui vont jalonner ces dernières années de 81 à 93, finalement, elle ne va avoir de cesse qu'elle ne remette en tête à ses auditeurs les chansons qu'elle a elle-même écrites. Et finalement, elle va éliminer celle de son répertoire qui avait été écrite par d'autres, je crois qu'à part Lilo Mimosa qui doit encore être dans la playlist de Châtelet 93 et peut-être Marianne Bade qu'elle a interprété à Mogador en 90, sinon toutes les chansons sont vraiment de son cru. Il y a Veuve de guerre aussi, mais c'était une reprise un peu humoristique, en fait elle la reprend de manière tellement différente en 93 que quand elle avait chanté en 58. Mais donc il y a une élimination progressive finalement des textes qui ne sont pas d'elle. Alors j'avais interprété ça évidemment, et ça m'a rangé au moment de ma thèse, comme une prise de conscience en fait de ce qu'elle avait toujours refusé. Elle est une femme qui écrit aussi.
Te souviens-tu de cette nuit? De cette belle nuit d'automne, je t'avais fait, je m'en souviens, une chanson de trois fois rire. Si les mots se sont envolés par notre fenêtre entr'ouverte, la musique nous est restée.
Alors ça, c'est La musique de Barbara. C'est pas sa chanson la plus connue,
non. Ni
peut-être la meilleure.
Ni peut-être la meilleure. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes pour ce texte. Il est original parce que il fait de la méta-chanson. Alors, vous savez très bien ce que c'est effectivement en littérature, hein, le méta. Mais là, c'est éloquent parce que cette musique que l'on entend et qui pourrait être n'importe quelle musique, enfin celle dont elle parle dans la chanson, devient celle que l'on entend. Donc il y a une espèce de superposition un peu labyrinthique au bout d'un moment, alors qu'il n'est pas dit que cette chanson que l'on entend soit celle, que cette chanson dont on parle soit celle que l'on entend.
Mais ça, c'est très intellectuel ce que vous nous dites, Joël Julie, alors qu'elle refusait absolument d'être considérée comme une intellectuelle.
Ouais, bah après les exégètes sont bien obligés de considérer, et on le fait, enfin je pense que tous les littéraires le font, enfin on considère l'objet sans être respectueux de la parole de l'écrivain et de l'artiste.
Alors ça, c'est une chanson dont vous dites que c'est un sommet de lyrisme barbaresque. Or, elle n'est pas toujours lyrique. Il n'y a pas tellement de mots, finalement, dans ces chansons. Elle essaie quand même de choisir les mots les plus justes, mais elle n'en fait pas trop.
Non, alors il y a des chansons qui peuvent pas. Enfin, quand j'avais commencé à travailler sur Barbara, j'avais été surpris parce que on pouvait dire aussi bien qu'elle avait un style maniéré, donc on l'a rangé dans une tradition d'une chanteuse qui avait des textes très écrits. Puis d'un autre côté, il y avait quand même des chansons très populaires, des chansons avec du langage familier, voire avec des vulgarités. Et donc il a fallu montrer que c'est pas toujours les mêmes les mêmes titres qui utilisent ces différents ressorts. Donc il y a une palette finalement qu'elle s'offrait, une palette très large, et elle pouvait puiser effectivement dans une langue très lyrique et très romantique, et puis au contraire avoir un humour décapant avec des textes plus ludiques.
Oui, mais parfois au sein même d'une seule chanson, elle varie le langage familier avec le langage plutôt élégant. Par exemple, la solitude, on entend les mots renifleuse, garce, gueule, aller voir ailleurs sans payer, mais il y a aussi faire escorte. Cœur à la traîne, amour morte, matin blême, heure blême. Ouais. Donc au sein même de la même chanson, il y a des niveaux de langage qui sont très variables.
C'est assez rare. Vous dénichez justement une chanson où on est bien dans le double discours parce qu'il y a, enfin peut-être que la chanson incarne ça en fait. Hein. D'une part, c'est une chanson littéraire parce qu'elle est dans l'évocation des amours déçus et de, enfin un schéma très très littéraire, enfin très 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 typique, très topique de la chanteuse qui fait le bilan de la personne qui fait le bilan de ses amours et a peur de se retrouver toute seule. Et puis, d'un autre côté, évidemment, il y a le langage familier quand elle s'adresse à cette chienne qui la harasse.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivie pas à pas, la garce. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été.
Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. Ça, c'est un poème. C'est même un octosyllabe.
Ouais. Et alors, c'est pas les chansons les plus littéraires, hein, parce qu'elle va même utiliser l'alexandrin dans certaines de ses chansons. L'octosyllabe, c'est assez basique hein, d'utiliser l'octosyllabe en chanson, mais le sien est relativement régulier, et notamment dans cette chanson qui a une musique qui traîne.
Je fais m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer.
Alors Barbara n'était pas une poétesse en tous les cas, elle ne souhaitait pas qu'on la considère comme telle, et pourtant elle disait des choses comme « Je ne suis qu'une murmureuse, et j'aime les mots qui ont l'air mieux élevés que d'autres. » De la poésie, c'est un peu, Joanne.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'était le terme qui l'a choqué, parce que vous avez défini au départ le rôle qu'elle voulait se donner, celui d'une femme qui chante. Et donc, toutes les tentatives journalistiques de lui faire avouer qu'elle prenait soin à son écriture. Elle avait, je pense, une représentation un peu artificielle de la poésie. Et elle avait peur qu'on rate le côté viscéral qu'il y avait dans ses chansons si on l'a labellisé poète.
Peut-être qu'elle n'avait pas lu assez de poésie. Est-ce que dans sa jeunesse, on lui avait fait lire de la poésie?
Alors, c'est effectivement cet argument biographique qu'on peut donner aussi. Hein. C'est une jeune femme qui avait raté le certificat d'études, qui avait été familialement un peu humiliée quand même par la réussite du frère aîné, donc qui était sortie du système scolaire. Donc, à part, évidemment, dans la nébuleuse belge, elle avait, par son mari, rencontré des poètes, mais qu'en avait-elle trouvé? Et elle-même, par rapport au livre, elle a ce contact un petit peu gêné, un petit peu emprunté, comme toutes les personnes qui manquent de culture. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de boulimie, quelquefois de les lire, très souvent de les acheter seulement, et au final, il y avait une érudition qui manquait.
Alors dans votre livre, Joël Julie, vous avez porté votre attention sur deux chansons en particulier, sur Nantes et sur Au bois de Saint-Amand. C'est deux chansons très très différentes. Pourquoi vous les avez choisies l'une et l'autre ?
D'abord parce qu'elles sont différentes, et c'était le but. S'il fallait ouvrir la palette de l'écriture de Barbara, il valait mieux choisir des chansons qui ne se ressemblaient pas. Alors, Nantes semblait une évidence parce que c'était le premier titre, celui de novembre-décembre 63, qui va ouvrir la carrière prestigieuse qu'on connaît. Elle entrait évidemment dans le triptyque du père, sur lequel forcément il fallait s'étendre si à partir du moment où je m'intéressais à Barbara. Après
le triptyque quelle chanson?
Alors le triptyque comprend Nantes, où le père est directement désigné, évidemment, comme le destinataire, avec un effet de suspense, hein, parce qu'on ne sait pas effectivement, enfin c'est même pas le destinataire dans la chanson, hein, le destinataire, ça pourrait être son frère, en tous les cas quelqu'un qui se retrouve avec elle un an après l'enterrement à Nantes. Mais en tous les cas, c'est lui qui est évoqué, hein, c'est celui dont on parle à la troisième personne dans Nantes, directement désigné. Et puis ensuite, Marie Chex, qui avait été qui est la sœur d'Anne Sylvestre, et qui avait été, avant de devenir écrivain, la secrétaire de Barbara à la fin des années 60, avait écrit du vivant de Barbara, avait écrit une petite biographie très elliptique de Barbara, qui s'appelait Barbara, tout simplement. Et elle avait soulevé l'identité de certains vers entre Nantes, Au cœur de la nuit, une chanson de 67, et L'aigle noir, 70. Alors que dans Au cœur de la nuit en 67 et dans L'aigle noir en 70, évidemment, le père n'est absolument pas désigné.
Enfin, il n'est pas désigné, mais certains ont pensé qu'il était quand même...
Certains ont pensé, présent. Finalement, très tardivement, hein, c'est-à-dire c'est après, finalement, peut-être certains intimes le savaient, certains proches qui avaient reçu des confidences, Marichet peut-être, hein, mais elle soulignait simplement une parenté en tous les cas entre les trois textes, sans parlant de hantise, hein, des portraits du surgissement qu'il y a dans Au cœur de la nuit ou de la figure de l'aigle, mais on est encore resté dans 11 ans, enfin Barbara a encore survécu 11 ans à ce livre-là, et il n'y a pas eu de révélation. Il a fallu attendre vraiment l'autobiographie en 98, l'autobiographie posthume et partielle.
Alors vous avez parlé, Joël Joly, au sujet de Nantes, vous avez parlé de suspense. Vous avez dit c'est une chanson qui est presque comme un polar au fond. Mais en même temps, vous dites aussi que c'est pas tant le signifiant qui compte chez Barbara que la poétique des mots. Alors est-ce qu'on est dans la narration? Est-ce que Barbara nous raconte des histoires dans chacune de ses chansons?
Jamais parce que
d'une part, même pour Nantes, alors c'est
ben
pas
même pour Nantes, c'en est pas une. Il y a une confidence, mais elle passe. Enfin, il y a une confession, si vous voulez, mais elle passe évidemment par du discours, cette figure évidemment du destinataire, ce frère ou en tous les cas cet ami qui l'accompagne sur les lieux du chagrin à Nantes. Donc le discursif est très important, hein, à l'intérieur de la chanson. Donc évidemment, il y a une ligne narrative qui va être évoquée. On parle d'un lieu, on parle de la gare, on parle de la chambre, on parle de l'enterrement, mais cette chronologie et ces étapes sont jalonnées d'un retour à la conversation qu'elle a effectivement avec la personne. Donc il y a toujours le souci du discours, le souci de la communication, et on est très souvent dans des chansons à la seconde personne, à la deuxième personne chez Barbara.
Une femme qui dialogue.
C'est une femme qui dialogue. Et ce qui est peut-être aussi utile de rappeler dans une histoire générale de la chanson, c'est que effectivement le mode narratif a été utilisé, mais il a été utilisé par la chanson réaliste, et il fallait bien et même encore par Brassens, le mode narratif. Il fallait bien se défaire de cette inscription-là, en fait. Hein. Faire des chansons narratives n'a pas intéressé Barbara.
Est-ce qu'il y a une volonté de se distinguer de ce qui précède chez Barbara?
Oui, je pense. Et en plus, il y a quelque chose de viscéral chez elle, c'est-à-dire entrer en communication avec le public.
En fait, les mots, au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Et aujourd'hui, je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts, qui cherchent à sortir du bout de mes doigts, de tout mon corps. En chantant, je retrouve cette sensation de mots jadis avalés, déglutis, engloutis, qui remontent douloureusement par ma gorge avant que je ne les exhale avec violence ou douceur dans une chanson. Comme il est expliqué dans Lily Passion. Et les mots qui sortent de ma gorge, je ne les connais pas. Des mots qu'on a plantés là, des mots qui me font mal et qui m'étouffent. Alors je les crie, je les vomis pour pouvoir respirer, pour vivre.
J'entre dans la foule qui crie mon nom, il est patient, il est patient. Et j'entre dans la fosse au lion, c'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même. J'avance, j'avance, mais j'ai peur, j'avance quand même.
Entend la chanson Lily Passion, c'était une lecture de Sarah Chaumette. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ses chansons? Alors il y a des thèmes qui reviennent, la douleur, les souvenirs. La douleur pour commencer, est-ce que c'est ça essentiellement qu'elle nous dit?
Alors la thématique principale quand même c'est l'amour. Hein.
Décliner, du coup ça va toujours ensemble, il n'y a pas tellement d'amour heureux
sur toutes les
coutures. Barbara.
Il y a pas mal de chansons quand même sur l'amour naissant ou sur l'attente de l'amant et on ne sait pas encore qu'il partira un jour. Mais
souvent ça se termine quand même un peu nostalgiquement.
Oui, on est souvent dans la situation où on lui dit de partir ou alors il nous a laissé, en tous les cas on est après
ou
la...
Ou alors elle dit de partir aussi.
Ouais, elle dit de partir finalement encore plus souvent et pour une femme de sa génération c'est assez important. Et c'est dit finalement, dès la chanson, dit quand reviendras-tu en fait, hein, où elle n'a pas la vertu d'attendre, elle n'a pas la vertu des femmes de marin pour attendre celui qui l'a délaissé, lui a promis de la retrouver. Donc... oui, effectivement, donc vous voyez, ça nuance bien votre idée de douleur. Hein. Il n'y a pas de douleur à partir du moment où elle prend la décision elle-même d'abandonner le partenaire infidèle ou le partenaire qui a déçu ou le partenaire avec lequel on ne se projette plus ou on a peur finalement que les amours cessent et déclinent.
Oui, c'est ça. Et parfois, il y a cette idée qu'il vaut mieux s'arrêter tant que c'est très beau pour ne pas gâcher le souvenir.
C'est ça, partir au plus beau en fait. Ça va être une idée force. Chez Barbara.
Donc c'est une romantique.
Je pense que tous ces thèmes-là sont traités de manière très romantique, mais avec moins de dolorisme justement. Enfin, parce qu'il y a cette espèce de volonté en fait qui sépare qui coupe par rapport à la mélancolie en fait.
Qu'est-ce que ça fait d'écouter Barbara? Parce que parfois on a l'impression qu'on se fait du mal en écoutant Barbara. On se fait du mal en même temps qu'on se fait du bien.
Voilà, tous les témoignages montrent que c'est le contraire en fait. On se fait du bien, on écoute Barbara quand on a mal et on se fait du bien à écouter Barbara. Alors il y a un phénomène cathartique qui est quand même bien connu au théâtre finalement. Hein. Celle qui exprime sa douleur nous empêche d'en ressentir trop. Mais il y a aussi finalement des solutions parce qu'il y a la volonté. Vous venez de placer Lily Passion. Hein, j'ai peur mais j'avance quand même. Qui devient à la fin j'ai peur j'avance. C'est-à-dire qu'on retourne la situation. J'avance parce que j'ai peur.
Ouais. Alors vous vous êtes intéressé aux paroles des chansons, évidemment vous aviez les airs dans la tête, mais est-ce que c'est différent d'écouter Barbara et de lire Barbara? Je signale de nouveau l'anthologie que vous avez faite de toutes ces chansons, où vous êtes allé du coup dans chacun des textes, vous avez analysé chacun des textes, ça s'appelle À cœur qui bat, à cœur battant aux éditions de l'Archipel. Quelle différence entre lire et écouter?
Dans l'introduction, je dis que c'est une hérésie, évidemment, de lire des textes de chansons. Et on peut le penser. Barbara souhaitait elle-même que ces chansons soient écoutées, non pas que ces textes soient lus. Elle trouvait ces mots fades, insipides, sans l'accompagnement musical et surtout sans la voix qui les portait et leur donnait cette spontanéité et cette authenticité. Donc, si on veut respecter, en fait, sa parole, il faudrait toujours écouter une chanson. Et c'est quand même assez souvent ce qu'on fait. Alors, pardonnez-moi d'avoir publié l'anthologie des textes de Barbara.
On vous pardonne, mais on écoute en même temps la musique, en même temps qu'on vous lit.
On l'a dans la tête où on lit les paroles avec une musique, soit qu'on a en mémoire, soit qui viendrait permettre du fredon, en fait.
J'ai 8 chansons nouvelles, dont je ne sais absolument que vous dire. Tant qu'elles n'auront pas été accouchées par le public, je ne sais rien de ces chansons-là. Je ne peux pas dire qu'elles me soient étrangères, parce que je les ai écrites, mais... J'ai très peur, va-t-on les aimer ou non et... Je ne sais pas. Moi je les aime, je crois que je les aime, moi je les aime. Mais je ne les entends pas encore.
Vous les avez jamais chantées encore? Vous n'avez jamais essayé?
À part trois ou quatre, à part trois, je pense, d'autres, je n'ai jamais chanté et... deux d'entre elles, je chanterai pour la première fois. Enfin, il y en a une qui n'est même pas terminée, que je terminerai, je pense, cette nuit. Et que je chanterai demain pour la première fois. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est bien une chose que l'on jette comme ça et qui se fait. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette, si vous voulez, j'aime beaucoup ce combat-là, moi. Je l'aime beaucoup. J'ai peur, mais j'aime beaucoup cette peur. Non pas que je la cultive, mais j'aime. J'aime ce rendez-vous-là. Sinon, c'est un rendez-vous.
Mais pour écrire une chanson, ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir par là?
Non, je veux dire par là, qu'est-ce que... Comment on fait une chanson? Comment on fait une chanson?
Comme une lettre.
Oui.
Je crois que j'écris une chanson comme une lettre.
Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des chansons et de ne jamais les chanter?
Non, jamais. Ça ne m'arrivera jamais. Ça ne peut pas m'arriver, de même qu'il ne peut pas m'arriver qu'on me commande une chanson. Je n'ai pas le talent d'écrire. Je n'ai pas le talent d'écrire sur commande ou... Pour que j'écrive, il faut que je vive.
C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que t'aimes. C'est parce que joue à jour. C'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris. C'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller, car il faut savoir se quitter avant qu'elle meure, le temps d'aimer.
Vous les écoutez avec toujours autant de plaisir, Joël Judy, toutes ces chansons vous connaissez par cœur?
Oui, oui, oui. Il n'y a pas de saturation.
Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit dans cette archive qu'on entendait il y a à peine une minute? C'était une archive toujours avec Roger Louis de 1966, où elle dit quand même qu'elle n'écrit jamais de chansons pour ne pas les chanter. Toutes les chansons qu'elle a écrites, elle les a chantées.
Elle confirme tout ce qu'on a déjà dit, hein, en fait, hein, depuis une demi-heure. C'est-à-dire que effectivement, il y a une nécessité. Enfin, il y a pas de déchets, en fait, chez Barbara. Tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle écrit, il faut qu'elle le chante, parce qu'elle n'envisage pas, de toute façon, d'écrire pour autre chose que la scène. Alors déjà, elle est quand même très courageuse d'avoir un journaliste en face d'elle qui lui pose des questions aussi larges, et qu'elle soit capable de rebondir à ce type de questions.
Qu'est-ce que c'est qu'une chanson, Joël Julie?
Oui, c'est ça, voilà. Donc, vraiment, bravo Barbara, encore une fois.
Elle se laisse pas faire, parce qu'elle dit, posez-moi des questions plus précises.
Oui, plus précises. Mais elle donne encore ce sentiment, cette impression d'exclusivité, en fait. Hein. J'écris pour chanter. Il y a un très beau texte qui doit être dans le coffret Barbara, qui compte je ne sais combien de CD maintenant, où il y a une première, la première interprétation des Rapaces, cette chanson, où elle bute, en fait, elle s'arrête. Elle dit donc au public qui est devant elle, voilà, je l'écris, je viens de la terminer et je la connais pas. Je suis désolé. Donc elle sort son papier, elle dit, je vais chausser mes lunettes et vous allez voir que je suis une femme myope, et c'est pour ça qu'on me donne du mystère. Et donc elle reprend la chanson avec le papier parce qu'elle vient de l'écrire. Donc ça conforte évidemment ce qu'elle est en train de dire dans cette interview, hein. Elle ne ment pas. Les chansons sont écrites. Göttingen, on sait très bien qu'elle va être interprétée le soir même après avoir été écrite dans le petit jardin qui est derrière le théâtre où elle se produit en 64.
Donc c'est vraiment l'inspiration la plus fulgurante, parce que écrire Göttingen comme ça en une après-midi, alors que finalement, vous l'avez dit, elle n'écrit pas beaucoup, elle n'écrit pas tant que ça, mais quand elle écrit, elle semble trouver immédiatement une mélodie.
Alors je pense qu'il y a beaucoup de brouillons et qu'on ne les a pas, en fait. Hein.
Elle cache ça pour garder un peu le mystère.
Et par exemple, la première version de Göttingen, on l'a, hein, il y a le pont de Suresnes, et vous voyez bien que le pont de Suresnes, il n'est plus dans Göttingen, alors que le premier brouillon a une rime en N qui est différente de...
Qu'est-ce qu'il y a à la place du pont de Suresnes?
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes. Ah. C'est bien, voilà. Donc, elle a trouvé des choses, peut-être des lieux, des espaces, en tous les cas, un petit peu plus...
C'est bien le pont de Suresnes.
Certainement. Je ne sais pas, je ne suis pas parisien. Donc, il y a cette impression-là, enfin, hein, d'exclusivité, de don au public, en fait. Hein, il y a cette idée d'offrande. Et puis, l'idée de peur, en fait. Hein, elle se nourrit de sa propre peur. Elle a envie d'avoir peur. On sait qu'elle était très traqueuse, hein, et qu'elle était donc dans les théâtres le matin, alors qu'elle ne se produisait que le soir. Donc elle voulait se nourrir de cette attente.
Mais il y a un rapport à l'authenticité chez Barbara. On a l'impression qu'elle ne répond que la vérité. Mmh. Et y compris dans ses entretiens. Enfin, quand elle ne sait pas quoi dire, elle le dit. Quand on l'interroge dans d'autres archives sur la solitude, elle parle. Enfin, c'est comme si elle, avec une pudeur extrême, elle dit tout.
Oui, en tous les cas, on donne l'impression, on sait très bien donc qu'elle n'a pas tout dit ou qu'elle n'a dit que tardivement certaines choses. Mais oui, il y a ce fameux ma vérité. En rajoutant un adjectif possessif au mot vérité, ben on est dans un entre-deux. Hein. Il y a une vérité objective et puis il y a une vérité subjective qui est celle à un moment donné qu'elle veut dire, mais en tous les cas avec tous les accents de la vérité.
Est-ce qu'elle crée une image d'elle-même? Est-ce qu'elle crée un mythe d'elle-même de manière volontaire?
Ça, j'en suis convaincu. Je pense que tous les adeptes de Barbara ne diraient pas la même chose que moi. Hein. Ils refuseraient cette image d'artificialité qui peut y avoir. Mais je pense que Barbara a très vite compris, parce qu'elle était très intelligente, même si elle n'était pas très instruite, elle était très intelligente. Elle a compris, en fait, que cette authenticité allait lui assurer une postérité et que ce qu'elle avait martelé, femme qui chante, don au public, amant de mille bras, allait devenir quelque chose d'essentiel, en fait, qui allait construire la mythographie. Vous avez dit star tout à l'heure, hein, c'est moins une star, en fait, qu'une espèce de mythe, en fait, Barbara. D'ailleurs, c'est bien pour ça que autant de chanteurs aujourd'hui se revendiquent de Barbara, on se revendique dit pas d'une star passée. Au contraire, c'est plutôt désagréable, hein, de dire. Faut imaginer un chanteur qui dit j'apprécie Tino Rossi. Enfin, c'est pas possible.
Mais ça revient, vous savez, tout revient.
Tout revient.
Faut juste savoir attendre.
Tino Rossi, je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tout jeune chanteur se revendique de Barbara. Tout jeune chanteur, auteur, compositeur, interprète.
Ouais. On écoutera si on a le temps justement un chanteur qui se revendique un petit peu d'elle. Il est question donc de ces dialogues qui sont la matière des paroles de Barbara. Elle-même dit que souvent elle écrit une lettre. C'est ça, faire une chanson, c'est écrire une lettre. Alors il y a Pierre, il y a Au revoir, il y a La colère. Tout ça, c'est des titres dans lesquels l'idée de la lettre revient.
Alors il y a d'autres titres. Plus épistolaire encore, c'est Madame, hein, où elle écrit à celle qui n'a pas voulu qu'elle soit sa belle-mère et qui dont le fils s'est suicidé évidemment à la suite de ce refus d'une grande bourgeoise certainement à laquelle elle écrit. Et puis à Vienne, un échange épistolaire avec l'amant qui se trouve à Vienne.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Mmh. Il y a aussi Gauguin. C'est une lettre, Gauguin.
Ah ben oui, Gauguin, c'est une lettre. Ça s'intitule comme ça. Enfin, il y a Lettre à Gauguin. Hein, le sous-titre, c'est celui-là. L'album s'appelait Gauguin et la chanson s'appelle Lettre à Gauguin, il me semble. C'est sur l'album 90. C'est une chanson qu'elle met très longtemps à écrire puisque Brel est mort depuis un certain temps.
Parce qu'il faut dire que cette lettre, c'est en fait une lettre à Brel, et pas
oui,
une lettre à Gauguin.
Non, c'est pas une lettre à. Elle joue sur le parallèle et sur les îles Marquises pour la proximité du peintre et du chanteur.
Parce que Brel est enterré dans le même cimetière que Gauguin.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais. C'est quoi le rapport entre Brel et Barbara?
Le rapport entre Brel et Barbara, c'est qu'ils ont erré dans les mêmes zones belges, bruxelloises, à peu près à la même époque. Brel avait déjà un gros succès et Barbara n'en avait à ce moment-là pas du tout. Et puis ils se sont retrouvés forcément avec un succès d'auteur, compositeur, interprète dans les années 60. Et cette espèce d'amitié
amoureuse
ou fraternelle a en tous les cas donné l'idée à Brel de la choisir pour son premier film. Et donc elle est devenue la comédienne principale du film Franz au début des années 70.
Ouais.
Donc ça a créé certainement une relation très forte. Film dans lequel, tout le monde le sait, Barbara jouait une femme laide.
Donc, elle jouait Léonie.
Elle jouait Léonie. Et c'est pour ça que la chanson Gauguin se termine par « Je signe Léonie, tu me reconnaîtras ».
Alors, il ne faut pas dire qu'elle était laide. Mmh. J'ai reçu encore un mail parce que hier,
c'est elle qui
l'invité
le dit.
A évoqué
c'est elle qui le dit.
Son physique. C'est elle qui le dit. Mmh. Mais de fait, elle n'est pas laide, enfin.
Non, pas du tout. Mais elle ne se représentait pas. Enfin, la manière dont elle se moque des femmes blondes, c'était bien avant que nous le fassions dans certaines blagues honteuses. La manière dont elle joue, hein, quand elle dit par exemple que Hopla, c'est pas du tout pour elle que ça aurait dû être chanté par une femme blonde. Donc voilà, il y a un jeu en fait. Hein. Je suis brune, j'ai un nez en bec d'aigle ou un nez aquilin. Voilà, par rapport évidemment à une blonde pétillante et pulpeuse, qui est une représentation des années 60 de la féminité. Donc
Mais c'est un autre genre de beauté, et elle savait l'effet qu'elle produisait, non seulement sur les hommes, mais enfin sur tout le monde, sur son public. Elle savait qu'elle plaisait aussi, et cette façon de plaire est passée aussi par son physique.
Ouais. Je suis pas convaincu qu'elle triche quand elle dit qu'elle ne se sent pas belle. Et d'ailleurs, dans le film d'Amalric, justement, j'ai trouvé que Balibar jouait bien, en fait, cette incertitude de son charme, sur son charme.
Quand elle a écrit ses chansons, ou quand elle a montré ses chansons qui étaient peut-être déjà écrites, j'ai vu qu'elle avait, elle avait un monde à elle, musicalement, dans les mots, dans des mots presque, pas des mots inventés, mais des mots qu'elle détournait de leur sens, dans des phrases qu'elle construisait d'une manière tout à fait inhabituelle, et qui font la personnalité de son écriture. Je le constate aujourd'hui encore plus, parce qu'avec le temps, j'ai moins le nez dessus, quoi. Les premières chansons, elle me les a chantées chez elle ou par téléphone, et donc je faisais pas le détail. Et c'est passé beaucoup d'années, je la réécoute, et puis je distingue des choses que je n'avais pas perçues à cette époque-là. La musique, elle connaissait pas la théorie. Et elle avait des trouvailles. Elle avait des trouvailles harmoniques qui avaient l'air de provenir d'une érudition, alors qu'elle n'en avait pas. C'était pas une virtuose du piano, mais les notes qu'elle choisissait pour s'accompagner ou pour composer étaient des notes qui n'étaient jamais banales.
Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé.
À notre image, je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous entrer ensemble à la maison?
La compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Barbara avec vous, Joël Julie. On vient d'entendre Georges Moustaki ici, qui parlait de la petite musique propre à Barbara. Vous pensiez à quoi en écoutant Moustaki parler?
Je pensais qu'elle allait suivre la Dame Brune, et vous avez choisi la ligne droite qui est écrite par Moustaki 4 ans plus tard. Et je trouvais que c'était une rudement bonne idée d'avoir choisi la ligne droite, qui est un petit peu moins connue.
C'est une idée de Laurence Millet.
Ouais, la Dame Brune, c'est une idée qui est un peu floue, en fait, du personnage. Alors que là, on est dans la thématique barbaresque par excellence, c'est-à-dire l'homme qui est loin. Et cette incertitude, vont-ils se retrouver? Elle est forcément dans le nord, elle est forcément dans la brume et dans la nuit, et l'homme est toujours au soleil. Et il y a cette impossibilité de se retrouver.
Est-ce que toutes ces chansons, j'ai l'impression que oui, mais vous allez me confirmer ou infirmer, est-ce que toutes ces chansons sont absolument autobiographiques?
Je pense que oui. Enfin, en tous les cas, il y a une nécessité de mettre quelque chose d'elle à l'intérieur de n'importe quelle évocation. Je me rappelle quand j'ai eu Barbara au téléphone.
Racontez-nous, vous l'avez eu souvent?
Non, une fois, je commençais ma thèse, et j'avais écrit à Charlie Marouani pour avoir l'autorisation d'utiliser ses textes, en fait. Plus de 4 vers pour que ce soit, fallait que ce soit autorisé, en fait. Et Marouani avait dû lui donner la lettre, et Barbara m'avait appelé en 94. Donc, tout de suite après, évidemment, ces derniers concerts et le moment où elle était au plus mal. Et une curiosité, ça a été de me tester quand même un petit peu au téléphone, en me disant, vous allez dire quoi, vous allez parler de quoi. Et j'avais dit que j'allais parler effectivement du jeu dans les chansons, qui me semblait être une démonstration lyrique par excellence, par rapport à d'autres textes plus narratifs de la même époque ou des époques qui précédaient. Et elle m'avait dit, mais il y en a quelques-unes seulement qui n'utilisent pas le jeu. Mais même dans Drouot, par exemple, son Tédis, vous utilisez le jeu, parce qu'il y a effectivement les deux dernières strophes où elle donne témoignage du fait qu'elle a rencontré cette vendeuse-acheteuse à Drouot, qui récupère ses objets souvenirs de son passé déchu.
Elle était contente alors qu'on s'intéresse à elle. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de thésards qui tournaient autour de ses textes, qui s'intéressaient d'une manière universitaire à son travail?
De manière aussi précoce, c'était assez rare, parce que du vivant de l'artiste, c'était assez rare. Là, maintenant, il y a deux thèses, donc la mienne et celle de Sébastien Bost, je crois, qui ont été soutenues ou qui seront certainement publiées un jour. Pour Barbara, c'est déjà beaucoup, parce que quand un artiste chanteur a quand même plusieurs mémoires qui
maintenant, il y a des colloques Barbara.
Oui, il y a même eu un colloque Barbara à Tours, organisé justement par Sébastien Bost. Oui. Mais la chanson s'étudie énormément à l'université à l'heure actuelle.
Oui. Est-ce qu'on étudie par exemple sa chanson La Déraison qu'elle a écrite en 1981?
Non.
Parce que La Déraison, est-ce que c'est pas un mot qui englobe un petit peu une volonté d'être de Barbara?
Oui. Alors c'est beaucoup plus joli que Passion, hein, évidemment, Déraison, et c'est un peu le, et c'est une chanson aussi qui est intéressant d'évoquer, parce que c'est une des dernières chansons qui va être en vers dans la carrière de Barbara. Enfin, elle est relativement bien composée. Et puis, c'est une chanson qui marque cette thématique qu'elle aborde comme des jalons dans sa carrière, celle de la femme mûre et du jeune homme ou de l'adolescent, qu'elle va reprendre quasiment de 1964. Il y a déjà une chanson qui fait référence jusqu'au dernier album, l'album Testamentaire.
Il y a un côté Dalida un peu là.
Oui, il y a un côté Dalida. Je ne sais pas combien Dalida a mis de jeunes hommes dans son lit. Je sais que Barbara, nous avions essayé de faire un recensement, elle en a mis beaucoup quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, quand elle a refusé d'avoir un homme, elle s'est contentée ou satisfait avec des hommes.
Les chansons sont faites de ça, elles sont faites de ce quotidien. Le quotidien, il est fait de quoi? On le sait, de l'amour, de la mort, de la. Hein, parce que moi, on parle toujours de la mort, mais c'est pas moi, j'ai pas inventé la mort. On me dit toujours, je suis triste. Pas du tout. Moi, j'étais pas triste. Moi, je me souviens quand j'ai écrit quelqu'un d'extrêmement gay, on veut pas me croire. Bon, ben, c'est chacun son truc. Mais je veux dire, quand j'ai écrit, je parle de n'importe quoi, mais je dis, quand j'écris non, par exemple, on m'a dit d'être triste. Non, mais attendez, tout le monde a perdu un père. Moi, j'ai pas inventé la mort. Mais on ne peut pas non plus vivre sans savoir que les gens, ceux qu'on aime et soi-même, on se dirige vers la mort. C'est pas vrai qu'on se dirige vers la vie. On se dirige vers la mort en passant par une chose éblouissante et terrible aussi, qui est la vie. Et c'est un mensonge quand on me dit qu'on se dirige vers la vie. On est bien d'accord. On n'avance pas vers la vie. On passe par la vie. Le mal de vivre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit avant ou que ce soit demain, c'est toujours le mal de vivre. Parce que peut-être parce qu'elles ont un vécu quelque part et que, bon, Pierre, attendre un homme, ben, on attend tous un homme d'une même manière, peut-être. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est parce que les sentiments ne sont pas démodés. Une larme reste une larme. Une larme, c'est pas à la mode. Un rire non plus.
Le mal.
C'est drôle, Joël Julie, le mal de vivre avec Barbara.
Alors, on parlait tout à l'heure de chansons cathartiques, mais celle-là, elle donne l'exemple. Hein, c'est-à-dire que on va passer du vaille que vaille, on va passer du mal de vivre à la joie de vivre. Et donc les dernières strophes sont sur la pulsion de vie après un gouffre presque suicidaire.
C'est quand même quand elle dit j'ai pas inventé la mort. C'est tout la jonction entre, en effet, cette grande drôlerie et puis ce mal de vivre. Elle est souvent drôle, d'ailleurs. Dans Les Insomnies, je crois, cette strophe. « Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. »
La chanson est très drôle, Les Insomnies. Hein, et pourtant, ça va évoquer, à un moment donné, un des suicides. Hein, quand elle dit qu'il y a les pompiers et la gendarmerie au pied de son lit, c'est parce qu'elle a avalé trop de barbiturique, trop de cachets la veille au soir. Et pourtant, la chanson devient humoristique. Elle est de 75. Elle est très drôle. Mais il fallait bien, j'ai pas inventé la mort, c'est parce que tout le monde l'a taxé à cette époque-là d'être relativement morbide, habillé en noir. Elle le dit à un moment donné, vous m'imaginez en rose. Donc forcément, c'est une manière de retourner le reproche qui lui est fait, justement, d'évoquer la mort dans énormément de chansons.
Non, on l'imagine pas en rose, mais elle voulait rester dans le noir aussi.
Elle voulait rester dans le noir, mais elle riait beaucoup. Il y avait pas mal de chansons humoristiques dans, en tous les cas, en début de carrière.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, elle n'est pas dans l'ombre, hein, vous le disiez. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent d'elle. Tiens, par exemple, il y a un jeune chanteur, 26 ans, il s'appelle Tim Dum, et il reprend Pierre de Barbara.
Ta-da-dam, 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 ta-da-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Il pleut. Ta-da-dam, 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 ta-da-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Il pleut. Sur les jardins alanguis, sur les roses de la nuit, il pleut des larmes de pluie. Il pleut. Et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli, la pluie.
Est-ce qu'il est fidèle à Barbara en chantant de cette manière-là?
Ah ben, Barbara est très genrée quand même, hein, garçon-fille. Et là, on a, depuis Bruel, mais déjà, comme ses chansons sont très genrées, elles sont très difficiles à reprendre pour des hommes. Hein, Sardou avait repris, je crois, « Dis quand reviendras-tu » ou Benabar a repris « Dis quand reviendras-tu ». Ils ont un petit problème avec les femmes de marin. Mais Mouloudji avait déjà fait une variante en disant, en parlant donc des princes de Castille pour avoir la bonne rime, des chevaliers anciens, voilà, c'était ça, hein, les chevaliers anciens à la place des femmes de marin pour sexualiser du côté masculin la chanson. Et ici, comme Bruel dans l'album Hommage qu'il avait fait, bah, y a des chansons qui passent directement du côté de l'homosexualité, forcément, quand elles sont interprétées par des hommes. C'est pour dire qu'on a des chansons très, très, très genrées chez Barbara, que la relation.
Ça ne l'aurait pas dérangé, de toute façon.
Ah non, Barbara. Pas du tout. Elle est une, à son corps défendant, peut-être. Elle est une icône gay à partir du début des années 70. Et il y a beaucoup de passionnés de Barbara qui revendiquent l'homosexualité dans le même temps.
Ouais. Est-ce que, elle a beaucoup apporté à la chanson française? Et ce serait quoi, finalement, son apport par rapport aux autres?
Mon idée, quand même, c'est que ce serait de dire que ce qui a été le plus marquant, en fait, dans la carrière de Barbara, et ce qui peut servir de ligne de conduite, en fait, à ceux qui se revendiquent d'elle, c'est cet amour pour le public, cette espèce de sacrifice pour le public qui est assez important. La chanson Ma plus belle histoire d'amour date du début de carrière. Ça ne fait que 2 ans qu'elle a du succès, et elle chante déjà Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est une prise de conscience, en fait, pour elle.
C'est une prise de conscience, d'une part, oui, mais aussi, c'est un pacte pour l'avenir, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les 30 années qui suivront, il n'y aura pas d'homme qui viendra remplacer ce public. Donc, en même temps, ça devient une prison, hein, cet amour inconditionnel pour le public, ces rendez-vous d'amour, cet amour décliné comme cela pour un amant de mille bras.
Mais est-ce qu'on chante encore comme Barbara aujourd'hui? Vous voyez que là, la reprise ne ressemble pas à une chanson de Barbara. Enfin, c'est toute une autre manière de chanter.
Ouais. Alors, je vous citerai Raphaël Lanader, qui est quand même la chanteuse, elle, qui me semble utiliser les mêmes inflexions, les mêmes ruptures de souffle que Barbara, et avoir des thématiques qui sont relativement proches.
Bon, on va écouter ça. Merci beaucoup, Joël Julie, d'être venu nous parler aujourd'hui des chansons de Barbara. Votre livre Les mots de Barbara est publié par les Presses universitaires de Provence dans la collection Textuelle. Et puis on vous doit également un livre intégral des chansons de Barbara, Cœur qui bat, cœur battant, publié celui-là aux éditions de l'Archipel. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique qui est aujourd'hui un petit peu particulière pour accompagner la série de documentaires d'Arte intitulée « Les grands romans du scandale » qui se proposent de revenir sur des œuvres littéraires vilipendées lors de leur parution mais qui ont ensuite atteint le statut de chef-d'œuvre, ainsi du barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras dont on va parler aujourd'hui avec vous, Nathalie Masduro. Bonjour.
Bonjour.
Ce livre donc dont vous parlez dans votre documentaire diffusé demain, documentaire que vous avez co-réalisé avec Valérie Urea et qui sera diffusé à 22h50 et qui s'appelle Pornotropique. Je crois que j'ai tout dit. Alors, qu'est-ce qui est scandaleux avec le roman de Duras, Un barrage contre le Pacifique ?
Déjà, chez Duras, on peut dire que tout est scandaleux. Elle-même disait qu'elle était un objet de scandale permanent et que c'était ça qui lui échappait, en fait. Elle ne comprenait pas pourquoi tout ce qui émanait d'elle était tellement scandaleux.
Donc c'est son style, finalement, qui est scandaleux.
Voilà. Alors, ce premier roman qui n'en est pas un, premier roman, puisqu'elle en a écrit d'autres auparavant, mais elle le revendiquera comme tel, c'est quand même un scandale, parce qu'elle y évoque sa jeunesse en Indochine, pour reprendre le terme colonial de l'époque, et la déchéance de ces petits blancs dont elle fait partie, sa mère qui se fait rouler par l'administration coloniale, qui achète une terre qui est inondée tous les ans par la mer et qui est du coup incultivable. Bon, bah ça va être la ruine familiale et pour Marguerite Duras, sans doute l'inspiration de son œuvre à venir.
Et puis le scandale, c'est aussi peut-être le livre lui-même et son parcours.
Oui, parce qu'en plus, elle sort ce livre dans les années 50, donc au tout début en plein milieu de la guerre d'Indochine. C'est à ce moment-là, elle est sélectionnée pour le Goncourt. Et alors là, c'est un des plus grands ratés de ce prix Goncourt, puisqu'à ce moment-là, il décide de choisir un livre d'un auteur totalement obscur, qui le restera d'ailleurs, et Marguerite Duras repart sans son prix. Ils vont se rattraper en 1984 en lui décernant le Goncourt pour L'Amant. Ouais. C'est de nouveau son histoire en Indochine, son enfance en Indochine, cette fois-ci sans le contexte colonial. Elle a gommé un petit peu tout ce qui pouvait être historique. Et là, elle a le Goncourt, mais elle ne leur pardonnera pas. Parce que pour elle, elle le dira à ce moment-là, le Goncourt, c'était le barrage.
Ouais. Quel est son rapport avec l'Indochine et qu'est-ce qu'elle pense finalement de cette terre? Aujourd'hui, évidemment, on regarde l'histoire avec un peu plus de recul, mais elle, qu'est-ce qu'elle disait?
Alors, elle s'est tue quand même sur la lutte armée, on va dire, à ce moment-là, et les luttes d'indépendance pour l'Indochine, pour un Vietnam libre. Mais elle, dans son roman, elle dénonce quand même une exploitation, l'exploitation des corps, l'exploitation des terres. Elle a des phrases quand même terribles sur l'exploitation des EVA, sur ce qu'on a appelé nous ensuite les jaunies, c'est-à-dire que en rapport aux négriers, en fait, toutes ces exploitations d'EVA utilisaient les indigènes, comme on disait à l'époque, et à tel point qu'on excusez-moi, j'en perds un petit peu.
Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder votre formidable documentaire, Nathalie Masduro, Pornotropique, qui est à voir demain, mercredi 7 octobre, à 22h50 sur Arte. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Chenepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Romain Billet et Baptiste Lénard. Et demain, on continue d'explorer l'univers barbaresque. Ce sera avec Valérie Lehoux, journaliste et spécialiste de la chanson française, autrice de Barbara, portrait en clair-obscur, un livre disponible en poche. Et tout de suite, c'est les sciences.